101.5 FM. Sur Radio G, tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est l'heure de Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale en ce mardi, 18 avril. Aujourd'hui, équipe un petit peu restreinte puisque Cédric n'est pas avec nous. Alors, on ne sait pas pourquoi il n'est pas là, mais en tout cas, on lui passe le coucou et puis surtout, on le retrouvera sûrement la semaine prochaine. Mais il y en a un qui est toujours au rendez-vous, c'est Faustin qui est avec moi. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde, ça va très très bien.
La forme?
Ouais, un peu fatigué de regarder les playoffs à 3h du mat.
Bah j'imagine oui, parce que t'as tout un travail à faire évidemment. Voilà. C'est pas du tout pour ton plaisir, c'est évidemment
professionnel.
Que, c'est ça, exactement. J'ai entendu que c'était le début des vacances, c'est vrai ou pas?
C'est tout à fait vrai.
Et du coup, ça profite. Est-ce que ça révise?
Ouais, pour l'instant,
pas encore.
Non, c'est la deuxième semaine.
C'est ça. On est plus axé playoff et puis après, on verra. Bah, t'as raison. Ça a joué, non, ce week-end?
Ouais, c'était le dernier match de saison régulière.
Ok.
Dernière victoire.
Évidemment.
On s'assure la qualification en demi-finale de R2.
Pas mal, ça, du coup.
Ouais.
Et du coup, ça va monter. Tu le sens bien?
Bah ouais, je pense. Hein, comme on a quand même été très solide cette saison. Je pense qu'on peut aller chercher le titre.
Et pourquoi pas évidemment le titre pour on rappelle ton club c'est l'AS Avrier Basket, c'est ça.
Exactement.
L'AZA Basket. Donc voilà, écoute, on te le souhaite évidemment de bien terminer la saison. Alors on va parler dans cette émission donc de plusieurs choses, vous en avez l'habitude. On va d'abord aller sur le volet local avec toutes les actualités autour des clubs du Maine-et-Loire. On aura évidemment le SCO Foot, le SCO Handball, aussi un petit peu de SCO Rugby. On aura les clubs de basket. Faustin, tu nous feras un point sur le AB, l'UFAB et puis surtout la finale finale européenne de Cholet Basket qui arrivera demain. Puis sinon, sur le volet international, on parlera évidemment de football. On parlera de basket, justement. On le disait, tu vas nous parler un petit peu des playoffs de NBA. Et puis, voilà, on fera un petit point aussi sur un peu de tennis, un peu de hockey. Et puis, j'allais oublier, mais voilà, je vous ai concocté une petite chronique en fin d'émission où on parlera de foot féminin français. Voilà, c'était une chronique que je voulais faire depuis deux semaines. On n'avait pas eu le temps quand on avait reçu notamment le Puck Angevin, mais voilà, je l'ai gardé et puis surtout je l'ai un peu, j'ai rajouté quelque chose puisque c'est parce qu'il y a pas mal de choses notamment sur ce point de vue-là. Donc voilà, ça va être une chronique assez lourde, mais en tout cas ça va être sympa. Ce sera pour la fin d'émission. On va commencer sans plus tarder avec on va commencer comme d'habitude un petit peu par le SCO après une victoire surprenante la semaine passée contre Lille. Le SCO pouvait enchaîner avec une deuxième victoire consécutive, chose qui n'est pas arrivée depuis septembre dernier, et les Angevins avaient d'ailleurs tous les ingrédients en main pour aller chercher ce succès contre Clermont dimanche. Avant la demi-heure de jeu, Nabil Bentaleb lance Adrien Hunou qui reprend son ballon d'une magnifique demi-volée et qui ouvre le score pour les scoïstes. Mais les joueurs d'Alexandre Dujeu ne vont pas réussir à conserver cet avantage bien longtemps puisque 5 minutes après le premier but, les Clermontois vont bénéficier d'un pénalty que Grejon Kiey va transformer. Quelques minutes encore après, le SCO va de nouveau concéder un pénalty et c'est Mohamed Cham qui va cette fois redonner l'avantage aux Auvergnats. Le score en restera là, mais les regrets seront renforcés par leur supériorité numérique en jeu, par la supériorité numérique angevine qui aurait pu donc bénéficier aux joueurs d'Alexandre Dujeu, puisqu'il y avait eu un carton rouge reçu par Neto Borges en fin de première mi-temps. Et puis, comme on sait, le score c'est aussi des problèmes extra-sportifs. À noter notamment que Abdel Bouazama a été officiellement démis de ses fonctions, notamment entraîneur de la réserve. En tout cas, voilà, il n'est plus du tout lié au club d'Angesco. Et puis, il y a eu un article de l'équipe qui a été sorti aujourd'hui qui parle un petit peu du début de la fin pour le SCO. Le SCO qui a toujours été un modèle club, enfin qui était un club modèle, on va dire, dans le côté familial, qui bossait bien avec des bonnes pioches à droite à gauche. Et puis, voilà, tout ça qui est parti à volo aux alentours de l'année 2019-2020, avec déjà les faits qui concernaient l'accusation d'agression sexuelle de Saïd Chaban. Normalement, les faits se seraient déroulés du côté de Madrid, donc avec une salariée commerciale du SCO, donc du côté de Madrid, et c'était donc à peu près fin 2019, et l'affaire qui éclate début 2020, et juste après, c'est Olivier Piqueux qui était parti ou démis de ses fonctions. Et en tout cas, voilà, il y avait eu le début de la fin, en tout cas au niveau sportif. Il y a eu beaucoup d'ambiance qui s'est dégradée, surtout voilà, il y avait des pro-Chaban, des anti-Chaban, et donc voilà, c'est ce qui sort un petit peu de ces lignes qu'on peut voir dans l'équipe du jour, et puis surtout l'équipe qui n'a pas fini avec le SCO, puisqu'il y a encore deux articles qui sont prévus donc demain et puis jeudi, voilà, logiquement. Donc voilà, deux autres articles sur le SCO, donc il y aura peut-être d'autres révélations qui seront faites à ce moment-là. En tout cas, voilà, pour la situation du SCO, pour l'extra-sportif. Sans plus tarder, on va parler de basket, Faustin. Par quoi on commence? Alors, tout le monde a gagné, je crois, ce week-end.
Oui, tout le monde a gagné.
Tout le monde a gagné, c'est un sans faute.
Il y en a une qui n'a pas joué.
Oui, l'UFAB n'a pas joué. Parle-nous un peu de l'UFAB, parce qu'elle joue demain.
C'est ça, l'UFAB qui n'a donc pas joué depuis la dernière émission, mais elle joue demain à 20h face à Charleville-Mézières pour, en cas de victoire, passer à la 6e place du classement et s'éloigner ainsi du play-down à seulement 2 journées de la fin du championnat.
Et puis, du coup, l'UAB ?
Ouais, l'UAB qui, eux, se sont imposés contre Saint-Vallier sur le score de 92-71. Et ils jouent d'ailleurs en ce moment même à Reims. Il y a 8-6 pour Reims et il reste 4 minutes dans le premier carton.
Donc voilà, évidemment, tu nous feras suivre un petit peu l'évolution du score, ouais, pour l'UAB. Et puis, on va terminer surtout avec le grand rendez-vous. C'est aussi demain. Alors, t'avais parlé du match de l'UFAB, mais évidemment, on jettera un œil là-dessus. Mais il y a cette finale européenne pour Cholet Basket.
Ouais, Cholet qui ont pu s'échauffer en retrouvant le chemin de la victoire en Betclic Elite, en s'imposant 80 à 74 contre Roann, ce qui leur permet ainsi de retrouver le podium de Betclic Elite, et ce qui les met aussi en confiance avant d'affronter dès demain Vloklavek, l'équipe donc polonaise en finale de Coupe d'Europe. Le deuxième match aura ensuite lieu mercredi 26 à la Meilleraie pour potentiellement remporter la Coupe à domicile.
Donc voilà, cette Coupe d'Europe de la FIBA, comme on l'appelle, voilà. Qui sera peut-être gagnée par Cholet. C'est vrai que tu le disais, il y a eu cette victoire ce week-end contre Roann, c'est ça ?
Ouais.
Le Cholet n'avait pas gagné depuis longtemps, c'est ça ?
Ouais, ça, ils étaient sur 3 défaites d'affilée. C'était en plus contre des équipes qui étaient censées être prenables. Ouais. Donc regagner là, juste avant la finale, ça fait plaisir, ça doit faire du bien au moral. Surtout en l'absence de TJ Campbell, hein, qui pourra jouer aucun des deux matchs de Coupe d'Europe.
Ouais.
Donc, je pense qu'ils peuvent le faire pour cette Coupe d'Europe, à mon avis.
Ouais, il y a un joueur, j'avais vu qu'il y avait un joueur qui est blessé, qui était finalement revenu au dernier moment. Alors, je sais pas si c'est TJ Campbell. Peut-être pas. Eh ben, si, justement. Excusez-moi, je contredis tes infos. Mais voilà, TJ Campbell qui avait fait donc un retour assez inattendu. Ah, c'était donc voilà jeudi contre Roann. Et puis voilà, il avait fait un gros match apparemment. Donc évidemment, il sera hyper important pour cette finale. Donc on pourra compter sur lui. C'est pas grave, Faustin. Hein, on fait tous des erreurs. Mais en tout cas, voilà, ça va être intéressant de suivre ça parce que c'est un joueur clé. Hein, tu le disais
Il revient et il gagne direct.
Ouais, c'est ça. C'est clairement, c'est pas anodin. Donc voilà, on suivra ça pour Cholet Basket. On a hâte que les Choletais surtout mettent le feu à la mer. Déjà, ça va être incroyable. Donc tu le rappelles peut-être pour ceux qui veulent aller voir le match. Alors non, je crois que toutes les places sont prises, je dis ça, mais
je crois
que c'était complètement guichet fermé.
Ouais,
mais en tout cas, tu l'as dit, c'était mercredi 26 à quelle heure ?
À 19h. Je sais que c'est 19h demain. Non, 19h c'est l'UFAB, donc c'est 20h.
OK. Par contre, je sais pas s'il y aura une diffusion télé ou radio.
Je sais pas, peut-être faut voir sur le site de Cholet, des fois ils proposent des liens sur YouTube et choses comme ça.
Bah écoute, on verra ça puis on rendra évidemment l'info à nos auditeurs. On va du coup enchaîner tout de suite avec le handball. S'il y a bien une équipe du SCO qu'on n'arrête plus, c'est bien le SCO handball hein, qui s'est encore imposé ce week-end. Le leader de National 1 Elite a signé sa 17e victoire de la saison sur le parquet de Gonfreville. Au cours d'un match maîtrisé de bout en bout, les joueurs de Samtej déjà assurés de remonter en Pro League n'ont perdu que 2 fois cette saison et ont encore 3 matchs à jouer avant les playoffs prévus pour début juin. On va maintenant parler de l'actualité autour du SCO Rugby puisque les deux équipes seniors sont en pleine fin de saison et les enjeux étaient grands ce week-end à la fois pour les masculins et à la fois pour les féminines. Les rugbymen angevins ont assuré leur qualif pour les 32e de face. Les 32e de la phase finale de Fédéral 3 en battant Caen d'une courte tête 33 à 32. Les hommes de Victor Vara sont désormais à 4 matchs d'une montée en Fédéral 2 puisque s'ils passent les 2 prochains tours qui seront disputés en match aller-retour, ils feront partie alors des 16 promus vers la Fédérale 2. En attendant de parler de montée, leur prochain rendez-vous, ce sera donc dimanche à 15h, ce sera donc au stade de la Baumette, ce sera contre Plouzane, donc voilà, n'hésitez pas à les supporter, je pense qu'ils ont besoin de monde pour aller chercher cette qualification, notamment pour les 16e, et puis après, pourquoi pas cette montée. Pour les filles du SCO Rugby, la perspective d'une promotion en Fédéral 1 s'est dissipée ce week-end avec une claque reçue sur le terrain du RE. Les Pandettes, comme on les surnomme, ont achevé leur saison avec une sévère défaite 41-0 à l'occasion des demi-finales régionales de Fédéral 2. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur toute l'actualité locale. On va passer maintenant à une petite pause musicale et on se retrouvera juste après pour parler de tout l'actualité nationale et internationale. On va s'écouter tout de suite L'Homme Pâle et son titre Décrescendo, puis on se retrouvera juste après.
garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'il le ressente. Je veux le voir et j'irai jusqu'à en avoir le pull taché de sang. Jusqu'à la bave et les sanglots. Je parlerai comme un Italien avec les mains. Et j'aurai enfin plus aucun secret à dire. Sculpture au marteau, peinture au couteau. Je me suis jamais senti autant créatif. Demain j'irai graver mon deuil sur sa peau. Et ma balance affichera 10 kilos de moins. Increvable colère, je suis pas désolé. Il est mort le soleil. Mon Dieu qu'elle me manque. Tout s'éteint des crescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt. Et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu qu'elle manque. Tout s'éteint des crescendo. Bientôt plus rien à perdre. Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Oh je veux qu'il le ressente. Je recherche le bruit comme une drogue. Dans le silence ma mémoire joue les pires mélodies. J'essaye d'éjecter le disque. Oh, mais ça repart et mes molaires font des étincelles. Je déraillais la seule qui pourrait m'aider, c'est elle. Quelle ironie. Ah ouais, quelle ironie. Ok, si je suis resté à fixer les aiguilles jusqu'à la fin de la nuit, c'était pas pour voir si l'horloge marchait. Plus je m'interviewe, moins je sais qui je suis. Juste cette fille-là, c'est tout ce que je demande. Je ne saurais que faire du reste du monde. Je l'ai désiré perdument. Et maintenant je me sens tellement perdu. Mon Dieu qu'elle me manque. Tout s'éteint des crescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt. Et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu qu'elle manque. Tout s'éteint des crescendo. Bientôt plus rien à perdre. Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Mon Dieu qu'elle me manque. Tout s'éteint des crescendo. Oh, ma terre s'arrêtera bientôt. C'est sûr c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu qu'elle manque. Tout s'éteint des crescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre. Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre.
Décrescendo donc sur Radio G, c'était l'homme pâle donc pour son titre Décrescendo issu de son dernier album. On est de retour donc dans Génération Sport pour évoquer l'actualité internationale et évidemment aussi l'actualité nationale. Avant ça, on va faire un point donc sur ce qu'on vient de dire, on vient d'évoquer donc cette finale hyper importante pour Cholet Basket en Coupe d'Europe de la FIBA. Alors pour ceux qui ne savent pas, donc c'est l'équivalent de c'est une C4 en gros. C'est la quatrième Coupe d'Europe. Il y a l'Euroleague, il y a l'Eurocoupe, il y a la Ligue des Champions de basket en C3, et puis il y a la Coupe d'Europe de la FIBA en C4. On en parlait demain, c'est à 19h.
Ouais.
Et on cherchait la diffusion pendant l'antenne, et finalement, donc ce sera sur YouTube apparemment.
Ouais, c'est sur la chaîne YouTube de la Coupe d'Europe FIBA, tout simplement.
Et puis pour ceux qui sont directement à Cholet, eh bien il y a une petite fan zone qui est lancée du côté de Cholet dans le complexe de l'autre usine. Voilà, c'est le nom du lieu. Et donc voilà, c'est organisé notamment par les groupes de supporters de Cholet Basket. Donc voilà, si vous voulez vous y rendre et vivre cette finale avec du monde autour, eh bien n'hésitez pas à y aller. Et puis je voulais parler, qu'on va continuer à parler de Cholet. Je voulais parler un peu de ce qui se passe du côté du football avec voilà le SO Cholet qui était bien parti. On en faisait même parfois un candidat à la montée en Ligue 2, pourquoi pas, avec si ça passait bien, et puisqu'ils étaient plutôt voilà dans top 6, top 7 du classement de National 1. Et malheureusement là ils ont enchaîné trois défaites de suite Et ce qui fait que les Scholtais qui pensaient être indemnes par rapport au maintien, eh bien en fait ils sont sous le coup évidemment de ceux qui vont revenir derrière, puisque les Scholtais sont désormais dixièmes. Déjà ils ont perdu pas mal de places. Évidemment la montée en Ligue 2 c'est mort. Et puis surtout voilà, il y a 6 équipes, on le rappelle, qui descendent. Hein, ça fait un tiers du championnat qui s'en va. Et pour l'instant Nancy et donc le premier relégable avec 34 points, donc à la 13e position, et Cholet donc 10e avec 38 points. Les Choletais qui ne sont qu'à 4 points finalement de redescendre, donc il faut espérer que les Choletais ne craquent pas en cette fin de saison, parce que voilà, ce serait quand même assez dommage pour le club Choletais. À noter que le prochain match, ce sera notamment vendredi contre Villefranche-Beaujolais en déplacement, et puis sinon ils joueront Sedan, le Red Star, donc deux bons adversaires, et puis après ce sera des clubs qui sont plus dans le bas du classement avec Paris 13 Atlético et Avranches. Donc voilà, il y a 5 journées au Choletais pour se maintenir, et donc on leur souhaite évidemment de rester en National 1. On va passer maintenant au football international, avec pour commencer la Ligue 1. Le titre d'ailleurs qui est pratiquement déjà joué, avec cette victoire du Paris Saint-Germain 3-1 contre son dauphin, le RC Lens. Les nordistes se sont d'ailleurs fait dépasser par Marseille, vainqueur de 3-1. Statu quo pour la course à l'Europe, avec les victoires de Monaco contre Lorient 3-1, de Rennes contre Reims 3-0, de Lille contre Montpellier 2-1, et enfin de Lyon contre Toulouse également 2-1. Pour le maintien, Nantes a fait la mauvaise opération en s'inclinant 2-1 sur la pelouse d'Auxerre. Et puis Strasbourg a entériné la relégation d'Ajaccio 2-1. Je voulais parler un petit peu avec Cédric notamment, qui aurait pu parler un petit peu de tout ça dans l'émission, mais voilà, je voulais revenir sur la fameuse affaire Gatti. On va peut-être pas faire hyper longtemps là-dessus. Pour rappeler un petit peu, c'était mercredi ou jeudi, je crois, non mercredi, qu'a sorti notamment Romain Molina puis Daniel Riolo l'authentification d'un mail envoyé par Julien Frommier, qui était l'ancien directeur sportif de Nice. Et dans ce mail, où il parle notamment au directeur, à l'un des directeurs d'Ineos, donc Ineos, puisque Ineos a racheté l'OGC Nice par la voix de Jim Ratcliffe. Bref, il envoie donc un rapport de la part donc de Frommier pour parler de Christophe Galtier, et dans ce mail donc Julien Frommier fait état de propos racistes de la part de Christophe Galtier, propos discriminatoires, donc racistes mais aussi islamophobes. Voilà, c'est lié aussi avec le Ramadan. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont dites. J'ai pas les propos directement donc qui sont apparus dans le mail, mais en tout cas voilà, l'idée c'est que Julien Frommier, ça c'est l'info dont on est à peu près sûr en tout cas, qui a été en tout cas authentifiée par les journalistes, c'est que c'est bien Julien Frommier qui a envoyé ce mail. Donc le mail est vrai. Maintenant, la question c'est de savoir si ces propos sont avérés ou non. Christophe Galtier, lui, a déposé plainte pour notamment diffamation à l'encontre à la fois de Julien Frommier, mais aussi des deux journalistes qui ont révélé l'affaire, puisque évidemment c'est quelque chose qui peut apporter préjudice, évidemment, puisque voilà, on rappelle que la diffamation, ce n'est pas forcément, voilà, pour ceux qui veulent les petites notions de droit, en fait, la diffamation, c'est pas forcément on ment, en fait. C'est pas juste, par exemple, on dit quelque chose de faux sur quelqu'un, on n'est pas en train de le diffamer. La diffamation, c'est plus porter atteinte à quelqu'un. Il faut que ce soit quelque chose, un propos qui puisse vraiment le toucher, quoi. Si tu vois ce que je veux dire, un peu, Faustin. C'est ça, le nuire, c'est ça. Et du coup, donc souvent c'est des trucs faux. Ils le font si c'est faux. Et puis surtout, là, en l'occurrence, donc Christophe Galtier a réagi direct. Voilà, pour bien montrer qu'il n'avait pas tenu ses propos. Et donc voilà, il a reçu le soutien de son club, le Paris Saint-Germain, qu'il entraîne donc actuellement. Et puis voilà, donc l'affaire pour l'instant est dans les mains de la justice, surtout que finalement, en fait, ce ne sera pas que un simple mail. On va aller plus loin dans la piste, on va dire, de la vérité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on va aller essayer, en tout cas, la justice va essayer de savoir si ces propos ont été effectivement tenus, s'il y a eu des trucs discriminatoires qui ont été mis en place entre guillemets par Galtier, parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal de conflits avec notamment les joueurs, notamment Didier Digard également, pas mal de conflits avec des joueurs musulmans concernant le Ramadan. Voilà, sans avoir forcément la teneur de tout ce qui se passait, mais en tout cas les propos qui sont mis dans le mail sont beaucoup plus graves que simplement on ne joue pas en le jour de Ramadan. Voilà, c'est assez compliqué cette histoire, surtout qu'en fait le principal problème, c'est que c'est du parole contre parole. Donc quelque part, on ne saura peut-être jamais si Christophe Galtier a pu tenir de tels propos, puisqu'en plus donc Julien Fournier parle d'un entretien où il parle donc d'abord avec le fils de Galtier, qui est son entraîneur, fils adoptif, son agent. Christophe Galtier qui l'agent qui rapporte que Christophe Galtier se sent pas bien et qu'il y a, entre guillemets, selon ses propos, trop d'Arabes, trop de Noirs, trop de joueurs qui sont, on va dire, différents de lui. À ce moment-là, Julien Fournier, il s'énerve, forcément, dans ce qu'il raconte. Hein. Évidemment, c'est à prendre avec des si. Et donc, à ce moment-là, Christophe Galtier revient, arrive dans la salle, et donc le fils lui dit, demandez-lui si ce que je dis est vrai. Il va vous dire que voilà, il le pense. Et donc apparemment, ce que dit Julien Fournier, c'est qu'il aurait confirmé ses propos et qu'il aurait apparemment il aurait été alpagué par des gens dans le restaurant disant que l'équipe était passée à l'image de la ville, tout ça. Et donc c'est une affaire assez complexe, parce que évidemment on a envie de condamner ses propos. Sauf qu'en fait on peut pas savoir si c'est vrai ou faux, et c'est un peu le problème pour un peu s'exprimer là-dessus. Le problème dans cette affaire, c'est que c'est la façon dont Julien Fournier a fait. C'est-à-dire que on est soit sur Julien Fournier ment pour faire virer donc Galtier à l'époque, puisqu'il était encore à Nice, et donc là pour le coup c'est une vraie diffamation, c'est quand même c'est même très grave, hein, ce qui est de faire des fausses accusations comme ça, c'est assez grave. Donc soit il a menti, et donc là c'est très grave. Soit il a, soit il ment pas, et c'est arrivé potentiellement, ou alors c'est exagéré, bref. Et dans ce cas-là, moi en tout cas personnellement, je pense que là où il est fautif, c'est que il s'en est mal pris. Enfin, il aurait pu faire différemment. Oui, il a pas de preuves. C'est ça son problème, c'est-à-dire qu'un truc aussi grave, il aurait pas dû envoyer ça, il aurait dû avoir des preuves tangibles. Je sais pas, poser un téléphone pour enregistrer une conversation, avoir un truc écrit, quelque chose comme ça. Et malheureusement, je trouve, en tout cas, pour avoir lu le mail, en tout cas que les journalistes ont dévoilé, c'est que il y a pas assez de matière à sanctionner Christophe Galtier. Donc malheureusement, c'est pas le bon procédé qu'a utilisé Julien Fournier dans tous les cas pour virer Galtier, ou pour au moins se plaindre de son comportement. Donc voilà, on va pas se prononcer sur est-ce que ça a été dit, est-ce que ça a pas été dit, on va pas juger à la tête de Christophe Galtier, mais en tout cas voilà, comme je disais, ce que je déplore en tout cas moi personnellement, c'est la manière dont Julien Fournier a agi dans tous les cas, que ça soit s'il mente où il dit vrai, il a mal agi, en tout cas, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'au moins la police s'est à la fois donc a pris en compte les plaintes de Galtier, mais surtout ils ont quand même aussi pris le temps, notamment c'est le procureur de Nice qui a annoncé ça vendredi dernier, ils vont prendre le temps de mener l'enquête pour savoir si fondamentalement il y a eu des choses pas bien entre guillemets, enfin des choses qui relèvent du racisme, de l'islamophobie dans les locaux de l'OGC Nice, pardon. Donc maintenant aussi, ce qu'on attend, c'est aussi que qu'il y ait des témoignages potentiellement, si ce qui est dit est vrai par Julien Fournier, notamment de la part des joueurs qui était là-bas. Il y a pas mal de gens, notamment Thierry Henry, qui ce week-end a dit il faut que les joueurs parlent, c'est hyper important pour savoir s'il dit vrai ou non. Toi Faustin, qu'est-ce que t'en penses, si on doit en penser quelque chose?
C'est clair que là que l'histoire soit vraie ou fausse, l'image de Galtier est déjà tachée par cette histoire, et ça risque de le poursuivre toute sa carrière, même ouais. si c'est faux. Donc sûrement dû, comme tu le disais, à la manière dont ça a été fait, et peut-être que ça a été fait exprès, j'en sais rien, mais ce serait terrible quand même que ce soit faux, que ce soit vrai, pardon.
Oui.
Parce que dans ce cas-là, c'est vraiment très grave, et voir ça de la part d'un...
Ouais.
De quelqu'un qui a une telle position
dans le foot français, ouais,
c'est abominable.
Être entraîneur du plus grand club français actuel, en tout cas, de la plus grosse équipe, c'est quand même assez grave. Donc on verra si c'est avéré ou non, évidemment, mais il est possible de penser que il y aura pas forcément de suite. Puisqu'en tout cas, il n'y aura pas forcément pas de preuves.
Ouais,
en tout cas, à moins s'il y a de nouveaux éléments ou des témoignages massifs, entre guillemets, avec beaucoup de témoignages. Sinon, ce sera pas assez pour dire si c'est vrai ou faux. En tout cas, ce qu'on saura, c'est qu'il y aura peut-être pas assez ou suffisamment de preuves pour condamner Christophe Gauthier. Bref, pour cette histoire, on va refermer la page. C'est jamais des infos qu'on veut traiter, hein. On veut rester sur, évidemment, le sportif. On va passer au terrain avec la Ligue des Champions qui a lieu ce soir, notamment les quarts de finale qui donc vont se dérouler comme je le disais ce soir, ce mardi soir et aussi demain soir. Il y a pas mal de choses ce soir. Donc l'AC Milan tentera de conserver son avantage d'un but sur le terrain du Napoli, tandis que Chelsea espérera réaliser l'exploit en remontant deux buts au Real Madrid à Stamford Bridge. Faustin, est-ce que t'as des petits pronos sur la Ligue des Champions vis-à-vis des matchs aller? On va commencer peut-être par les matchs de soir.
Ouais.
Chelsea-Real, qu'est-ce que t'en penses?
Ça risque quand même d'être vachement compliqué pour Chelsea. Hein. Je pense que faut pas se gouler la face, c'est cuit pour eux, j'ai envie de dire.
Ouais. Alors je vais même te dire un truc, j'ai la compo sous les yeux de Chelsea, ça pique les yeux. Vraiment, on ne sait pas si c'est Chelsea qui doit remonter deux buts ou si c'est le Real, parce que ouais. En gros Chelsea, donc c'est une défense à 5, donc dans les buts qui est pas, sinon c'est James sur le côté droit, Kukurelia sur le côté gauche, en défense Tchaloba l'ancien de l'Orientais, Thiago Silva l'ancien parisien et Wesley Fofana le français. Et au milieu de terrain, on n'a pas un, pas deux, pas trois, mais il y a quatre milieux de terrain de formation avec N'Golo Kanté, Enzo Fernandez, Matteo Kovacic et Connor Gallagher en soutien de Kai Havertz. Donc c'est assez particulier comme composition d'équipe. Il y a qu'un seul vrai attaquant. Quand on doit marquer plus de deux buts, on se demande comment Chelsea va faire. Mais bon voilà, à savoir que Lampard a perdu ses trois matchs depuis qu'il est revenu en tant qu'entraîneur sur le banc de Chelsea. Et puis du côté du Real, c'est du classique avec Courtois dans les buts, Camavinga latéral gauche, Alaba, Militao en défense centrale, Carvajal sur le côté droit, et puis au milieu Modric, Kroos, Valverde et une attaque Vinicius, Benzema, Rodrigo. Donc voilà, le Real reste favori au vu des compositions d'équipe. Il y a un match où il y aura peut-être un peu plus de suspense, c'est Naples AC Milan. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Il y a eu 1-0 pour Milan à l'aller. Est-ce que Naples peut le faire?
Je pense que j'avais vu le match aller, justement, je l'avais vu, et c'était un match de fou.
Ouais.
J'avais vu que la deuxième mi-temps, parce que j'étais à l'entraînement avant.
Ok.
Mais c'était un match de fou. Je me demande comment il n'y a pas eu plus de buts, parce que de la 45e à la 90e, tous les joueurs, ils jouaient à fond.
Ouais.
C'était un truc de fou. Il y avait eu quand même un petit problème d'arbitrage.
Ouais.
Avec Zambo Nguissa, qui avait pris un rouge. Donc ouais. C'était un...
Qui sera pas là ce soir, effectivement.
C'est un milieu très important dans le Napoli, donc ils sont un peu diminués. Après, le fait de jouer à domicile, ça aide sûrement. C'est clairement même.
Ouais. Au stade Diego Armando Maradona.
Voilà, donc tout est possible. Hein, parce qu'en ce moment, Milan gagne contre Naples.
C'est ça.
Malgré que Naples a beaucoup d'avance en Serie A.
Exactement.
Mais Naples, Victor Osimhen joue.
Alors oui, justement, il était absent à l'aller.
Ouais.
Et là, il est titulaire. Il est de retour de blessure et donc on le verra aux côtés de le fameux Gvara. Alors je vais pas dire la fin de son nom. Alors si, je vais quand même essayer. Gvara Tchkelia. Gvara.
Voilà.
Gvara comme ils disent. Sinon Politano également sur le côté droit notamment. Mais c'est un trio qui marque beaucoup depuis le début de la saison. Donc ça va être intéressant de suivre ça, mais notamment en défense, il y a l'absence du coréen Kim, qui est plutôt bon depuis le début de la saison, et là qui va être remplacé par Juan Jesus. Et puis au milieu, donc tu le disais, Zambogisa qui avait été exclu, qui va être remplacé par le français Tanguy Ndombele, que j'aime beaucoup personnellement, et que donc on verra s'il est capable de faire quelque chose de bien dans ce milieu de terrain, avec notamment Lobotka et Zelinski qui l'accompagneront au milieu de terrain. Et puis du côté de Milan, on est habitué à voir pas mal de Français, et là il y en aura 3 cette fois-ci sur le terrain, avec Maignan dans les buts, qui avait fait un gros match aller, et puis également donc Théo Hernandez et Olivier Giroud, Pierre Kaloulou est pour l'instant donc sur le banc. Et puis donc voilà, sinon c'est assez du classique, avec toujours Bennacer qui avait été buteur à l'aller d'une belle frappe dans la surface de réparation.
C'était
Brahim Diaz. Brahim Diaz.
Ouais, il me semble que c'était lui qui avait marqué.
Attends, je vais checker ça, mais c'est pas contre Tottenham où il marque Brahim Diaz. Je suis en train de me poser la question.
Sinon, c'est passe des de Brahim Diaz. Mais je sais que
Brahim Diaz a fait passe des. Je crois que c'est ça. Ouais, passe des Brahim Diaz. Je regarde ça tout de suite. Effectivement, Bennacer, ça qui a marqué à la 40e au match aller. Donc on verra pour Naples ou pour Milan. Ce soir, donc tu m'as dit prono.
Prono, allez Milan.
Milan à la qualif.
Ouais.
Ok, ça marche. Donc ça va être intéressant de suivre ça. Et puis demain, il y a 2 matchs aussi qui sont plutôt intéressants, mais qui ont l'air plutôt joués, avec Inter Benfica, les Interistes qui ont gagné 2-0 au match aller à Lisbonne, et puis Bayern City, donc ce gros match entre Munichois et Mancunien. En gros, il y a eu 3-0 à l'aller pour City, pour ceux qui ne connaissaient pas le score. Est-ce que tu vois une des deux équipes en retard, donc Benfica ou Bayern, faire un exploit?
S'il y en a une qui doit faire un exploit, ce serait plus le Bayern.
Ok.
Qui peut, voilà, avec l'arrivée de Tourelle en plus. Donc ça, Tourelle, t'es pas là au match aller, il me semble.
Si.
Si, ok.
pardon.
Du coup, ils peuvent tenter des choses. Je pense que c'est eux qui peuvent être le plus surprenant.
Ok.
On sait jamais.
Oui, surtout qu'ils jouent à domicile.
Ouais, voilà.
Ça peut jouer. Et moi, c'est vrai que je mettrais quand même pied sur Benfica, parce que surtout l'Inter est pas très bon en ce moment, en championnat notamment. Et puis Benfica a montré quand même de belles choses. Donc je les verrais mal partir sans rien faire sur ce quart de finale. Donc on suivra ça évidemment. On rappelle donc ce soir AC Milan Naples et Chelsea Real Madrid, et demain donc Inter Benfica et City Bayern. Voilà pour le football, évidemment ce sera donc ce soir pour ces matchs là de Ligue des Champions, et puis en fin d'émission je vous parlerai évidemment de football féminin. Faustin, tu vas nous parler de basket? Avec la NBA, est-ce que tu nous fais quand même un point Belkic Elite et Euroleague?
Ouais, et Euroleague aussi, parce que c'est la fin de la saison de l'Euroleague.
Ok.
Mais je vais démarrer quand même par la Belkic Elite, parce que on a eu une belle surprise cette semaine qui s'est déroulée à Limoges, qui ont réussi à se défaire des Mets 92 sur le score de 84-83 grâce à un énorme game winner du meneur limogeois Bryce Jones. Qui nous lâche un gros step back sur la tête de Victor Wembanyama à une seconde de la fin du match, qui donne un petit point d'avance à son équipe et qui permet de créer l'exploit à domicile. La salle était en feu, c'était beau à voir.
Ok, voilà. Attendu.
C'est tout pour la Betclic Elite. Maintenant l'Euroleague, donc c'était la dernière journée de saison régulière d'Euroleague, et nos deux équipes françaises ont perdu, avec d'abord l'ASVEL qui ont donc perdu 88-71 contre Berlin, puis Monaco qui ont perdu 87-72 contre l'Anadolu Efes. À l'issue de cette saison, l'ASVEL finit bon dernier d'Euroleague avec 8 victoires pour 26 défaites, et Monaco finit quatrième avec 21 victoires et 13 défaites. Ils sont donc qualifiés pour les quarts de finale où ils affronteront Tel Aviv sur le meilleur des 5 matchs.
Ok, donc ce sera à suivre évidemment. Monaco qui était déjà en play-off d'Euroleague l'année dernière, c'est ça?
Ils ont fait dans le Final Four l'année dernière.
Ouais, carrément. Ouais.
Voilà.
Donc c'était pas mal pour Monaco, donc on espère qu'ils auront de pareils résultats.
On l'espère.
Cette année. On comment, enfin, on termine, on va dire, le basket avec la NBA, avec pas mal de choses.
Ouais, ça y est, les playoffs et les nuits blanches donc ont démarré. Et on a déjà eu le droit à des surprises avec, par exemple, la victoire de Miami, sortie vainqueur du play-in. Ils ont fini donc, et ils ont ensuite donc vaincu Milwaukee, premier de saison régulière. Victoire peut-être due à la blessure du double MVP juste du double MVP Giannis Antetokounmpo, qui sera malheureusement pour eux de retour pour le match 2. On a aussi le droit à des séries qui semblent être à sens unique, comme Boston qui a largement dominé Atlanta dans le match 1, ou bien Denver qui ont eux aussi eu raison des Timberwolves de Rudy Gobert dans le match 1. Ces deux séries ont l'air d'être des séries pouvant aller au sweep, donc un sévère 4-0 pour Atlanta et Timberwolves. On a donc aussi eu des matchs serrés, comme celui opposant les Suns de Kevin Durant aux Clippers de Kawhi Leonard, et ça a clairement été le plus beau match de cette première journée de playoff, et sûrement le plus beau match que j'ai pu voir en direct cette saison, entre le retour de Kawhi en playoff, son duel avec Kevin Durant, et la fin du match ultra serré avec le contre de Russell Westbrook sur Devin Booker, qui leur permet de remporter le match. C'était un match très complet que j'ai vraiment kiffé. Voilà, à 2h du mat, j'étais en train de crier dans mon lit.
Ah oui, carrément.
C'était quelque chose.
J'espère que t'as réveillé personne, quand même.
Non, je criais en silence.
Ah, tu criais en silence. C'est bien vu. Du coup, voilà. Sinon, quoi d'autre sur ces playoffs?
Sur les playoffs, on a déjà des deuxièmes matchs qui sont joués hier. Avec tout d'abord Philadelphie contre Brooklyn, et ça peut être sur le game one, on avait l'impression que Philadelphie allait être largement dominant, mais finalement pas tant que ça. Malgré la deuxième victoire de Philadelphie, les Brooklyn Nets ont su avoir plus de répondants, avec aussi on a le droit à un super poster dunk de Cam Johnson sur Joel Embiid. Hier, on avait aussi le droit au match opposant les Golden State Warriors aux Sacramento Kings. Le premier match avait été remporté donc par les Kings de seulement 3 petits points, avec Stephen Curry qui loupe un potentiel buzzer. Là, le match a été plus dominé par les Kings, qui était marqué aussi par un fait de match expulsant Draymond Green du match dans le milieu du quatrième quart-temps. Ce qui s'est passé, c'est donc Demontas Sabonis, le pivot des Kings, tombe au sol, il accroche le pied de Draymond Green en voulant s'échapper en quelque sorte, fait exprès clairement de donner un gros coup de pied dans le thorax de Demontas Sabonis, ce qui lui vaut donc une faute qu'on appelle flagrant 2 en NBA, et c'est significatif d'expulsion. En plus de ça, en sortant, il essayait un peu de chauffer le public de Sacramento. Il va sûrement prendre une grosse amende pour ça, mais à voir si la NBA va lui mettre des matchs de suspension pour la suite de la série. Tandis que Demontas Sabonis a lui simplement pris une flagrant 1, donc seulement des lancers francs pour l'équipe adverse.
Ok.
Voilà. Donc, et sinon,
vas-y, j'écoute.
Il y a eu aussi qui dit fin de saison dit aussi récompense individuelle. Mmh. Et on connaît tous les nominés dans toutes les catégories, avec Joel Embiid, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo au titre de MVP. Pour le rookie de l'année, on a Paolo Banchero, Walker Kessler et Jalen Williams. Pour la meilleure progression, on a Jalen Brunson, Shai Gilgeous-Alexander et Lauri Markkanen. Pour le meilleur sixième homme, on a Malcolm Brandon, Bobby Portis et Emmanuel Quickley. Pour le joueur le plus clutch, qui est donc le nouveau trophée de cette année, on a Jimmy Butler, DeMar DeRozan et ainsi que De'Aaron Fox. Pour le défenseur de l'année, on connaît déjà le vainqueur, sachant qu'étaient nominés Brook Lopez, Jaren Jackson Jr. et Evan Mobley. Le gagnant de son titre est donc Jaren Jackson Jr., le pivot des Grizzlies. Et on a encore un autre gagnant que j'ai oublié de citer, c'était pour le coach de l'année. C'est donc Mike Brown, le coach des Kings, qui a ramené son équipe en playoff, qui, je le rappelle, n'y était pas allé depuis 2006.
Donc ça fait évidemment très longtemps.
Voilà, ça fait 17 ans.
C'est ça. Donc voilà, merci pour ce point NBA, Faustin. Évidemment, on suivra dès la semaine prochaine en fait la suite de ces playoffs. Peut-être que il y aura pas mal de matchs, enfin de confrontations qui seront terminées,
Peut-être des premiers tours qui seront déjà finis. Ouais. On sait jamais.
On suivra ça évidemment la semaine prochaine. À noter pour terminer un peu sur le basket que le AB qui joue actuellement contre Chalon-Reims perd 37 à 35 et qui viennent de d'ailleurs de passer devant. Voilà, très beau 3 points, on l'a vu tous les deux. Angers, donc 38-37 pour Angers. On suivra ça jusqu'à 21h en émission. On va maintenant passer à d'autres sports avec le tennis. À quelques semaines du début de Roland-Garros, la saison sur terre battue s'ouvrait notamment avec le tournoi de Masters 1000 de Monte-Carlo. Après les éliminations françaises au premier tour et au second tour, les du huitième de finale ont donné lieu à de belles surprises. Tête de série numéro 1, Novak Djokovic a été éliminé à ce stade par l'Italien Musetti. Dans le même temps, Medvedev parvenait à sortir Zverev au cours d'un match tendu entre les deux hommes, tandis que Rude perdait contre Struff. Finalement, lors d'une finale opposant le jeune Rune à Rublev, c'est le Russe qui s'est imposé en 3-7, 5-7, 6-2, 7-5. Et puis on termine par du hockey sur glace. Après l'élimination des Ducs d'Angers en demi-finale de Ligue Magnus, on retrouvait les Dragons de Rouen et les Brûleurs de Loup de Grenoble pour se disputer le titre de champion de France. Après deux victoires faciles grenobloises lors des deux premiers matchs, ce sont finalement les Rouennais qui ont complètement renversé la série avec quatre succès de rang qui leur permettent ainsi de décrocher leur 17e couronne nationale. Avant de passer à la dernière chronique de l'émission, on va passer une petite pause musicale. On va s'écouter PLK, avec son nouveau titre Demain et on se retrouve juste après.
Putain, demain c'est loin, je navigue entre le mal et le bien. Entre galériens, des hauts, des bas, des bas, des viens. Me disent, j'ai des certifs par dizaine. J'évite les gens, j'évite les blancs, j'esquive le diesel. Voilà, tu sais qu'on se stop. Tolkien, mon pèse comme ce stop. On traîne à trois comme les stocks. Elle fait des vrais scores et des vrais stats. C'est monsieur Tesla, c'est comme un test pas. J't'allume en Vespa. Je suis dans le TT, complètement pété. J'repense à Resval, j'repense à Népal. Des souvenirs tachés, plus rien à cacher, on les oublie pas. Trop souvent dans mes oreilles, on m'a dit laisse tomber. Des gens que j'aimais beaucoup qui m'ont dit mon pied, c'est ton pied. On a rendu mon ciel noir depuis j'ai estompé. On va démarrer direct, ne y'aura pas de blabla. Pourquoi tous les jours encore on est au bar tabac? Il t'arrive que de la merde, mais c'est pas le karma. T'es qu'un fils de pute, t'es qu'un gros tarba. Putain, demain c'est loin. Je navigue entre le mal et le bien. Entre galères, des hauts, des bas, des va, des viens. Donc, on a foutu ce qu'ils me disaient. Hein? J'ai des certifs par dizaines. J'écoute même plus vos disquettes. Putain, demain c'est loin. Je navigue entre le mal et le bien. Entre galériens, des hauts, des bas, des bas, des viens. Ouais, dans la faute de ce qu'ils me disent. J'ai des certifs par dizaines. J'évite les gens, j'évite les blancs, j'esquive le 17. Putain, demain c'est loin, je navigue entre le mal et le bien. Entre galériens, des hauts, des bas, des bas, des viens. Ouais, dans la faute de ce qu'ils me disent. J'ai des certifs par dizaines. J'évite les gens, j'évite les blancs, j'esquive le 17. La caravane passe, les chiens boivent, leur grand-mère finit les bottes, faut se barrer au grand air. Si on s'enterre, soit on réussit, soit on finit à Nanterre. On rêve plus, ça fait des années qu'on smoke. Rappelle-toi, c'était de nous qu'on smoke. Et on passait pas nos vacances en snow. Mais au quartier, putain de sa mère, on se marre. J'ai plus peur de maman que de la lispo. J'suis en concert, demain j'suis pas dispo. En bois devant la boule disco. Avec le micro, j'suis pas là au bispo. Ça pilote en BMW Audi. Sur le polo, t'as vu le crocodile. J'vois tout vert, ça fume les brocolis. J'investis comme un monopoly. Je navigue entre le mal et le bien. Entre galères, des hauts, des bas, des bas, des viens. Donc, on a foutu de ce qu'ils me disaient. Hein? J'ai des certifs par dizaines. J'écoute même plus vos disquettes. Putain, demain c'est loin. Je navigue entre le mal et le bien. Entre galériens, des hauts, des bas, des bas, des viens. Ouais. On a foutu de ce qu'ils me disaient. J'ai des certifs par dizaines. J'évite les gens, j'évite les blancs. J'esquive le 17. Putain, demain c'est loin.
C'était PLK et son titre Demain, que vous pourrez trouver dans son dernier album 2069 minutes. On est de retour dans Génération Sport. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM de Radio G ou bien sur le site internet de la station www.radio-g.fr. On est ensemble donc jusqu'à 21h. On va aller quand même laisser un petit peu avant pour laisser ceux qui nous suivent juste après nos collègues d'Imaginaire de s'installer donc dans le studio. Mais voilà, l'émission n'est pas terminée. On va revenir sur quelque chose. Je voulais revenir sur la situation notamment du football féminin français. J'avais prévu d'en parler il y a deux semaines dans l'émission, mais on n'a pas eu le temps de faire ce petit point. Et depuis, il s'est passé des choses intéressantes sur lesquelles je voulais aussi revenir. Alors d'abord, le point de départ de cette chronique remonte au jeudi 30 mars. C'est cette journée marquante pour le foot féminin français. Nommé officiellement le mercredi à la tête de l'équipe de France féminine, Hervé Renard dévoilait sa première liste en tant que sélectionneur ce jour-là. Et dans cette liste figuraient bel et bien Wendy Renard, Léa Le Garec ou encore Jenny Le Sommer. Ces deux dernières faisaient donc leur retour en bleu après avoir été écartées pendant un temps par Corinne Diacre. Wendy Renard, évidemment aucun lien de parenté avec son nouvel entraîneur, avait été la première à mettre en pause sa carrière internationale pour demander des changements dans le staff de l'équipe de France. La défenseur de Lyon avait donc été appelée, mais aussi maintenue capitaine des Bleus malgré la polémique de son retrait potentiel du groupe France. Dans ce groupe convoqué par Hervé Renard ne figuraient pas en revanche Marie-Antoinette Katoto, Amandine Henry et Kadidatou Diani, toutes trois blessées de plus ou moins longue date. Les deux matchs suivants des Françaises avaient lieu en amical contre la Colombie à Clermont et contre le Canada au Mans. Il s'agissait du dernier rassemblement des Bleus avant la préparation à la Coupe du Monde prévue cet été. On reviendra plus tard sur les résultats de ces deux amicaux, mais avant, on revient au jeudi 30 mars et à cette double élimination aussi des clubs français en Ligue des Champions. L'année précédente, le PSG et l'OL, deux cadors européens, s'affrontaient en demi-finale de la Ligue des Champions. Et Lyonnaise terminait sacrée championne d'Europe, cette saison. Les deux formations tricolores ont toutes deux été éliminées en quart de finale, cette fois, respectivement contre Wolfsburg et contre Chelsea. Un coup d'arrêt, évidemment, pour ces deux équipes qui survolent le championnat national, l'AD1 Arkema. À voir si ces mauvais résultats ont vocation à dessiner une vraie tendance pour le futur ou si c'est juste un accident pour l'un des meilleurs championnats européens, avec l'Allemagne notamment et l'Angleterre. Avec un sélectionneur qui vient tout juste de débarquer, des joueuses qui font aussi un retour tardif dans le groupe et certaines qui vont revenir de blessures auxquelles on ajoute justement ces mauvais résultats des clubs français sur la scène européenne, l'heure était à l'inquiétude pour le foot féminin tricolore. Mais le rebond pouvait arriver et pourrait surtout arriver plus tôt que prévu. Toute la question est de savoir si ce regroupement de nouvelles individualités qui concernent l'équipe de France va réussir à fonctionner sur une période de travail aussi courte jusqu'au Mondial en Océanie. Le premier rassemblement mené par Hervé Renard s'est bien passé avec deux victoires, une première renversante contre la Colombie et une deuxième prestigieuse contre le Canada. C'est assez prometteur pour la suite. Au niveau des clubs, la Fédération Française de Football a annoncé un plan intéressant pour redynamiser ces championnats et renforcer la professionnalisation des clubs. Les premiers changements vont concerner en premier la première division. L'AD1 Arkema va être réformé avec des play-offs en fin de saison et qui détermineront donc le champion de France après des demi-finales et une finale, mais ils permettront aussi de qualifier un des clubs participants à la Ligue des Champions. Cette évolution du foot féminin se matérialisera aussi et également par la création d'une ligue féminine qui regroupera les deux premières divisions françaises. Une LFP au féminin qui visera à la professionnalisation des clubs qui pourront également prétendre à de nouveaux statuts, élite, excellence, ou accession. Les clubs français pourront également demander des subventions pour créer des centres de formation. Les équipes de ces centres, justement, pourront évoluer dans une autre nouveauté de ce plan de développement, la participation au nouveau championnat de Détroit. Le paysage, effectivement, du football féminin français accueille une troisième division nationale. Et pour sa première édition qui est prévue en 2023-2024, on pourrait y retrouver un club angevin avec l'équipe de la Croix-Blanche qui est bien partie pour être promue de R1, justement, vers la Détroit. Après une légère période de doute que les résultats et l'actualité au contour de Diacre notamment pouvaient laisser penser, le foot féminin français repart de l'avant et peut-être y verrons-nous les effets dès cet été pendant la Coupe du Monde en Océanie. Alors Faustin, je viens de parler un peu de tout ce qui se passe au niveau du foot féminin. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est plutôt cool pour une fois ce que la Fédé propose avec vraiment l'argent qui est mis dans le foot féminin.
Ouais, bah c'est clair que c'est une bonne chose de voir le développement du foot féminin. Après, ça va être du temps toujours avant de retrouver la place du foot masculin, évidemment. Oui. Mais déjà, c'est des très bonnes avancées qui sont faites et que voilà, la création d'une nouvelle ligue nationale, c'est déjà énorme. Hein. C'est de l'argent, autant d'argent mis dans le foot féminin, c'est que ça avance beaucoup, ne serait-ce que dans les mentalités. Au sein de la Fédé, donc c'est une très bonne chose à voir ce que ça va donner par la suite.
Ouais, c'est vrai que ça va être intéressant parce que comme je le disais, le jeudi 30 mars, c'était un petit peu des choses particulières puisque on savait pas trop ce qu'allait faire l'équipe de France au Mondial avec un changement d'entraîneur assez particulier, quelques blessures. On voyait effectivement, comme je le disais, les mauvais résultats des clubs français en Europe. On est habitué chez les hommes, mais chez les femmes, on est moins habitué. Et là, on a eu une réponse assez rapide avec surtout deux victoires d'Hervé Renard qui sont très rassurantes pour le futur de l'équipe de France féminine. Et puis, on a eu donc ce plan qui vise à potentiellement aider les clubs français à performer à la scène européenne et surtout en France. Donc ça va être très intéressant de suivre tout ça parce que voilà, c'est toujours des trucs qui sont un peu liés forcément. Si on bonifie notre championnat, on bonifiera aussi nos joueuses, on bonifiera notre vivier, notre réservoir de joueuses, les clubs, tout ça, c'est un cercle vertueux dont l'élément déclencheur est avant tout, bon, c'est un peu le sport de maintenant, c'est l'argent. Et l'élément déclencheur donc qui peut amener ce cercle vicieux, c'est voilà l'investissement financier dans les clubs professionnels, dans les clubs aussi amateurs. Donc ça va être très intéressant. Et des centres de formation, c'est aussi quelque chose bon qu'on voit, mais quand même un peu nouveau parce que c'est des vraies structures qui seront mises en place. Donc ça va être très très intéressant à suivre pour le foot féminin. Faustin, on le disait, pour le AB, il y avait 38-37, et je crois que c'est la mi-temps, c'est ça?
Ouais, et le score n'a pas bougé avant, le score n'a pas bougé depuis la fin du deuxième quart-temps, parce que là, le match va reprendre dans 3 minutes 9 précisément.
Ça marche. Et puis donc, nous, on va se quitter, puisqu'il est déjà 20h56. Donc on rappelle, le grand rendez-vous demain à 19h. C'est exactement cette finale de Coupe d'Europe aller entre Cholet et Vauclavec, le club polonais. Et puis sinon un peu plus tard, on a le match de l'UFAB à 20h contre Charleville-Mézières, les fameuses Flammes Garolo. Et puis ce week-end, comme je le disais aussi, vous pouvez aller voir du rugby à la Baumette et supporter le SCO qui va peut-être essayer de se mettre en bonne posture pour se qualifier pour les 16e de finale de Fédéral 3. On va se quitter. Merci à toi, Faustin, d'avoir été avec moi pour cette émission.
Plaisir.
On se dit à la semaine prochaine. Et puis, on va vous laisser avec le générique, mais surtout avec Imaginaire qui nous suivra juste après. On vous souhaite une bonne soirée sur Radio G.